J'aimerais parler sur le ministère de guérison de Jésus et de l'Église. Dans Luc chapitre 4, verset 14, il est écrit, Luc 4, verset 16, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Voilà, nous avons ici un résumé du ministère de Jésus lui-même, son action, sa manière d'agir envers les gens malades, envers les gens qui étaient possédés, envers les gens qui étaient atteints de divers maux, tous les maux possibles. Et dès le début du ministère de Jésus, on voit trois axes principaux se dégager de son service. On retrouve ça dans Marc chapitre 1, verset 27. On en a ici aussi un extrait, vous allez voir que les passages sont parallèles. Dans Marc 1, 27, le premier axe, on va le voir dans ce verset. « Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. » On voit bien que Jésus passait beaucoup de temps à enseigner, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Ici, il est dit pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour expliquer la parole de Dieu. Le verset continue. « Il entra dans la synagogue, il enseigna. Ils étaient frappés par sa doctrine. » Doctrine, ça veut dire son enseignement. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Et nous remarquons que Jésus enseignait avec la puissance du Saint-Esprit. Donc vous avez tout un pan du ministère de Jésus, c'était vraiment la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement, l'annonce de la bonne nouvelle, c'était les révélations sur la parole de Dieu. Un deuxième grand axe, nous le trouvons toujours dans Marc 1 et au verset 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Ça va être deux axes nouveaux. En plus de la prédication de la parole de Dieu, toute la ville était assemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. On voit qu'il y a un axe de guérison très important. Et il chassa beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Et nous allons voir que dans tout le ministère de Jésus, il y a eu un grand axe qui était la délivrance des gens tourmentés, agités, possédés par des mauvais esprits. Alors pour résumer, si on prend ce texte où Jésus, en fait, dans Luc chapitre 4, est au début de son ministère, il annonce ce qu'il va faire, et si on regarde ce texte, il annonce ces trois choses qu'il va mettre en œuvre. La première, annoncer la bonne nouvelle, enseigner, parler de la part du Seigneur, donner des paroles prophétiques, ça va être un élément important. Ensuite, il parle de guérir ceux qui ont le cœur brisé, la guérison divine, prier pour les malades, prier pour ceux qui sont souffrants, ça va être une grande action du Seigneur, et puis aussi de proclamer aux captifs la liberté. Il y a des captifs spirituels, des gens qui sont enchaînés par des mauvais esprits, par des puissances impures. Eh bien, il va amener la délivrance. Trois axes, enseignement, guérison, délivrance. Voilà, ça résume vraiment l'action du Seigneur. Et si on se plonge dans le Nouveau Testament, et qu'on prend un petit peu de recul, on regarde vers l'Ancien Testament, toute la première partie de la Bible, on constate un contraste radical entre ce que faisait Jésus et ce que faisaient les prophètes. Car on n'a pas d'équivalent dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun prophète qui a dit, par exemple, « Il a été dit » ou « Il est dit dans la loi, mais moi je vous dis ». Jésus faisait cela. À six reprises dans le Sermon sur la montagne, il dit « Il vous a été dit » dans la loi, mais moi je vous dis. Ça veut dire qu'il se mettait au même niveau que la loi et même au-dessus de la loi. Il n'y a aucun prophète qui n'ait jamais osé faire une chose pareille. Donc son enseignement était déjà supérieur. Par exemple, il a pu dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ça aussi, ce n'était pas possible à dire pour un être humain, parce qu'Abraham, ils lui font remarquer « Mais Abraham, ça fait 2000 ans qu'il n'est plus là et toi tu dis que tu es ». C'est pas possible. Tu n'as même pas 50 ans. Donc, quand il dit « Je suis », cette parole est inspirée. Il est véritablement le Fils de Dieu. Alors, c'est vrai que pour l'axe de l'enseignement, on n'a pas d'équivalent. Jésus a enseigné d'une manière absolument parfaite la parole de Dieu. Mais pareil pour les guérisons, on voit assez peu finalement de guérisons dans l'Ancien Testament. Il y en a bien sûr, il y a la guérison de Naaman, quelques guérisons que l'on trouve par-ci par-là. Mais avec Jésus, on voit une abondance de guérisons qu'on n'a pas vu encore chez les prophètes. C'était de la guérison divine, la guérison surnaturelle de toutes sortes de maladies d'infirmités qui n'a pas d'équivalent dans l'Ancien Testament. Et pareil pour la délivrance, puisqu'on a bien vu quelques mauvais esprits agiter des personnes, comme le roi Saül qui a été agité par un mauvais esprit. On en voit quelques fois, mais il n'était pas vraiment délivré. L'esprit se retirait de lui quand David jouait de la musique, et à chaque fois il revenait. Et puis il y avait bien les faux dieux, il y avait toutes sortes d'idolâtrie, tout cela c'était des démons. Mais on n'a pas d'exemple comme Jésus qui chassait les démons de cette manière-là et les démoniaques étaient délivrés. Donc on voit quand même avec Jésus un important changement par rapport à ce qui existait dans l'Ancienne Alliance. C'est maintenant le temps de la grâce, c'est maintenant le temps de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi les gens disaient « on n'a jamais vu un homme enseigner comme cet homme. On n'a jamais vu un Jean guérir comme cet homme. » C'est pour ça que Jésus disait « le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Quand Jésus vient, en fait, quand Jésus est là, c'est le royaume de Dieu qui s'approche. C'est pour ça que nous prions et nous nous attendons à Dieu de la même manière, parce que quand Jésus est là, on peut s'attendre à toute chose de sa part. Il est tout puissant. Il n'y a aucun cas qui semble être trop difficile pour Jésus. Ça aussi, c'est assez remarquable parce qu'il pouvait guérir toutes les maladies, que ce soit des lépreux. À l'époque, il n'y avait aucun traitement pour la lèpre. Les gens donc étaient condamnés à mort. Que ce soit des paralytiques, il y avait un paralytique de 38 ans à la piscine de Bethesda qui était sans issue, personne ne pouvait le porter pour le mettre dans la piscine, alors que l'ange venait de temps en temps agiter l'eau et le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. Mais Jésus, en fait, s'approche de lui, c'était peut-être le cas le plus lourd, les autres avaient d'autres maladies, mais lui ne pouvait pas marcher depuis 38 ans. Et il lui dit « mais veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ?» Parce que Jésus pense qu'il savait que la guérison était aussi pour lui, même si ce cas était tellement désespéré, tellement lourd. Et puis cet homme ouvre son cœur, et c'est par la foi, il croit de tout son cœur que Jésus peut le faire. Et Jésus le guérit sans qu'il ait besoin d'aller se jeter dans la piscine. Donc beaucoup d'exemples, même de résurrection, la fille de Jaïrus qui était morte, Jésus la ressuscite, tout cela n'est pas un problème. Il y a un autre aspect que je voulais souligner, dans Marc chapitre 10, verset 53, on remarque que quand Jésus guérit, souvent, très souvent, c'est instantané. Vous avez cet exemple dans Marc 10, 53, il vient de prier pour un aveugle qui s'appelle Bartimée. Le texte dit « aussitôt ». C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu des jours, des heures, des mois pour cette guérison, mais aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alors il y a des guérisons d'aveugles, la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Jésus s'étant approché la fit lever, la prenant par la main et s'est souligné « à l'instant, la fièvre la quitta ». Donc, il n'a pas fallu encore des heures quand Jésus agit. Il n'y a pas de problème pour que la chose se fasse. Un officier du roi dont le fils était malade vient à la rencontre de Jésus. Il dit « mais viens voir mon enfant avant qu'il ne meure ». Et Jésus lui donne une simple parole. « Va, ce n'est même pas la peine que je me déplace, va, ton fils vit ». Et il rentre chez lui et il est accueilli par ses serviteurs qui lui disent « mais ton enfant a été guéri ». Il demande « mais à quelle heure ?» Et c'était au moment où Jésus avait prononcé cette parole « va ton fils vit ». À la même heure, en fait, à distance, l'enfant était guéri. Et les exemples sont nombreux. Mais je soulignerai un exemple un peu particulier pour nous montrer que quelquefois il faut persévérer dans la prière jusqu'à la guérison. Oui, il y a des exemples où Jésus guérit instantanément, mais il y a aussi un exemple où Jésus guérit progressivement. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 22. C'est un homme qui est aveugle dans la ville de Bethsaïda. Et cet aveugle, Jésus fait quelque chose de particulier, il le prend de chez lui, le sort de son village, il l'amène à l'extérieur, il fait de la boue avec sa salive et met ça sur ses yeux. Il lui impose les mains, donc il prie pour sa guérison. Et il lui dit, « Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et l'aveugle dit, ben, « Je vois des hommes qui marchent, mais comme des arbres qui marchent. » Donc sa vue n'était pas restaurée à 100%. Elle était à moitié restaurée. Il voyait quelque chose, mais il ne voyait pas parfaitement. Alors Jésus aurait pu lui dire, ben, « c'est bien mon ami, tu as déjà une demi-guérison, tu peux partir. » Mais Jésus n'a pas fait cela, il a prié une deuxième fois. Il a imposé à nouveau les mains sur ses yeux, il a prié, ça veut dire qu'il ne voulait pas le laisser à moitié guéri ou à moitié malade, comme vous voulez. Et la deuxième fois qu'il a prié, il lui a demandé « Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et il dit « je vois tout distinctement ». On voit que la guérison donc s'est faite en plusieurs temps, jusqu'à l'entière guérison. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Jésus, qui est tout-puissant, n'a pas réalisé ce miracle en un seul coup? Bien, certainement qu'il pouvait le faire en un seul coup, mais il a voulu nous montrer que nous devons persévérer jusqu'à l'obtention de la complète bénédiction et pas nous arrêter à mi-chemin. C'est pour nous enseigner que parfois il faudra combattre dans la prière, qu'il va falloir prier à nouveau, imposer à nouveau les mains, persévérer jusqu'à ce que la personne soit complètement guérie et ne pas baisser les bras. On a d'ailleurs le même exemple au sujet d'un homme qui était possédé. Il y a beaucoup de cas où Jésus prie pour délivrer un possédé et le démon part tout de suite. Et on a un cas, c'est dans Marc chapitre 5, où le mauvais esprit ne part pas tout de suite. Et le texte dit que Jésus chassait le démon, mais que le démon lui répliquait, il voulait gagner du temps, il ne sortait pas. Et il disait, je t'en conjure, ne me tourmente pas. Et à un moment donné, Jésus lui demande, mais quel est ton nom? Et c'est à partir du moment où ce démon révèle son nom, qui s'appelait Légion, parce qu'il y avait plusieurs démons dans la même personne, à partir de ce moment-là, il va les jeter dans les pourceaux. Mais si vous lisez ce texte, vous vous rendez compte qu'il y a un combat spirituel assez long entre le moment où Jésus commence et le moment où les démons s'en vont finalement. Il y a un combat, il y a une résistance, les démons ne veulent pas partir, ils essaient de gagner du temps. Pourquoi cet exemple aussi détaillé? C'est pour nous montrer que parfois il va falloir prier, et même Jésus dit même jeûner l'esprit. Cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière pour obtenir des victoires. Donc ne nous décourageons pas, frères et sœurs, il y a des exemples dans la parole de Dieu où il y a des résistances, soit que ce soit la maladie, soit que ce soit des délivrances, et il va falloir combattre dans la foi et ne pas se laisser décourager. Ce sont des exemples qui nous parlent du combat spirituel, et ne pensez pas, mais si le Seigneur n'a pas répondu, c'est qu'il ne répondra pas. Parce que Jésus aurait très bien pu dire ça en milieu de chemin pour l'aveugle en disant, bon ben, il est à moitié guéri, on va laisser comme ça. Non. Ou pareil pour le démoniaque, les démons réagissent, mais il n'était pas sorti. Non, il est allé jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout et ne pas penser que Dieu nous a abandonnés ou qu'il ne veut pas la victoire complète. On voit dans Matthieu 8, verset 16, que Jésus opérait les deux choses distinctement. Parfois, donc, il y avait des délivrances. Il chassa les esprits par sa parole. Donc, on voit bien que la délivrance est un axe. On mena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, donc d'accord, là c'est des délivrances. Et puis vous avez la guérison, il guérit les maladies. On voit bien que c'est deux choses différentes. Pourtant, dans au moins trois cas dans la Bible, je parle du Nouveau Testament, dans trois cas, c'est-à-dire, on pourrait dire dans une minorité de cas, mais quand même, c'est trois sur la masse de guérison qu'il y a eu, eh bien, trois cas, les maladies sont liées à la présence d'un mauvais esprit. Le premier cas, c'est la femme possédée d'un esprit infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée dans la synagogue. Elle ne pouvait pas se redresser, dans Luc 13. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à cet instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et au verset 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat ? Qu'est-ce que cet exemple signifie ? Bien, cette femme était courbée en deux, une maladie physique, elle ne pouvait pas se redresser. Donc, si elle était allée voir les médecins, ben, ils essayaient de la soigner avec des traitements. Mais Jésus a discerné que ce problème n'était pas physique, mais spirituel. C'était une chaîne de Satan qui la tenait liée, qu'on ne voyait pas avec les yeux là, mais qu'on peut voir avec les yeux de la foi. Et Jésus donc a chassé l'esprit d'infirmité qui la rendait infirme. Et à partir de ce moment-là, la Bible dit qu'elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Donc on voit que la maladie physique ici était liée à la présence d'un mauvais esprit qui tenait cette femme courbée. On a aussi un aveugle muet, et la Bible dit qu'il était démoniaque, et c'est le démon qui lui procurait cette espèce de cécité et mutité. Une fois délivré, il parlait et voyait, et puis on a un enfant qui avait un esprit de suicide, qui se jetait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Jésus lui a dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Esprit muet et sourd. Donc la présence du mauvais esprit le contaminait physiquement. D'où l'utilité de ce que la Bible appelle dans 1 Corinthiens 12 le discernement des esprits. C'est un don spirituel qui permet de recevoir par révélation si la maladie est d'origine physique ou si la maladie est d'origine spirituelle. Et sans le don de discernement, ben on ne peut pas aider les personnes qui, en tout cas, dont la maladie est reliée à un mauvais esprit. Maintenant, je passe à une deuxième partie. On a vu comment Jésus agissait et surtout, on retient bien les trois grands axes comme le Seigneur opère, l'annonce de la parole de Dieu, donc l'enseignement, la guérison des malades et la délivrance des opprimés. Maintenant, vous allez dire peut-être, ça c'était à l'époque de Jésus, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre aux mêmes choses, ou est-ce que c'est terminé ? Eh bien, on voit dans l'Église maintenant, par exemple dans Luc chapitre 9, Jésus prépare le terrain avec les apôtres, et il a commencé à faire aux apôtres ce que lui-même faisait. Dans Luc chapitre 9, verset 1, « Ayant rassemblé les 12, donc ce sont les 12 disciples, les apôtres qu'il a formés, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Si vous êtes attentif, vous allez remarquer les trois axes, en fait, que Jésus opérait lui-même. Un des axes, c'est pouvoir sur les démons, donc les délivrances. Deuxième axe, la guérison des maladies, et il demande aux disciples de le faire. Troisième axe, il les envoya prêcher, donc l'enseignement, l'annonce de la bonne nouvelle. Et en fait, ce que Jésus a fait dans un premier temps, il dit aux disciples, voilà, j'ai fait, vous avez observé ce que j'ai fait, maintenant, vous allez participer avec moi, et dans un troisième temps, je vous envoie pour faire ce que vous m'avez vu faire. Il y a eu un élément progressif pour qu'à la fin, ce ne soit pas Jésus qui le fasse lui-même, mais les disciples qui le fassent au nom de Jésus. Bien sûr, Jésus n'est jamais absent, puisqu'il est présent partout par son esprit, mais les disciples suivent les conseils et au nom de Jésus vont annoncer la bonne nouvelle, ils vont prier pour les malades et ils vont prier pour les délivrances. Alors Jésus a prophétisé quelque chose de très important dans Jean 14, 12, qui était vraiment tellement extraordinaire que certainement les disciples n'ont pas compris. Dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. C'est un verset un peu surprenant, parce que ce que faisait Jésus, c'était déjà assez extraordinaire. Et il dit, mais il en fera de plus grande. Pourquoi ? Parce que je m'en vais au Père. Il faut bien lire jusqu'au bout, parce que Jésus est monté au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté au ciel ? Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus est présent par son esprit, partout. Alors que quand il était sur terre, il n'était présent qu'à l'endroit où il faisait les choses, c'est-à-dire sur le territoire d'Israël de l'époque. Donc, comment est-ce possible ? On sait que Jésus a surtout agi en Galilée, en Samarie et puis en Judée, dans ces régions-là. Il est un petit peu sorti de ces régions, mais très peu. Alors voilà pourquoi c'est avantageux. Parce que maintenant, le message de la bonne nouvelle est prêché partout. Les guérisons ont lieu partout, les délivrances ont lieu partout. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant par l'Église. Ce que Jésus a accompli, en fait, il l'a transmis à des ministères, ce sont les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes. Il les a suscités pour continuer l'œuvre de Dieu et faire ce que lui-même avait commencé de faire. Vous avez peut-être entendu parler de cet évangéliste qui s'appelait Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, c'est intéressant son appel parce que il était simplement enfant dans l'église, son père était pasteur, il était enfant, et à l'âge de 8 ans, il a ressenti dans son cœur un feu pour la mission, pour être missionnaire. Et le Seigneur lui a mis à cœur de prier alors qu'il était dans le culte, il y avait une dame qui était devant lui avec un gros goitre dans le cou, et il a été poussé à prier pour elle, mais il était enfant, il ne se rendait pas tout à fait compte de ce qu'il faisait. Il a prié pour elle, et au nom de Jésus, paf, elle a été guérie. Ça a commencé comme ça. Alors quand il a parlé de son désir de servir et tout, ils ont dit, mais c'est, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas. Ils ont dit, trop petit, ce n'est pas possible et tout. Mais c'est resté comme un feu dans son cœur jusqu'à temps qu'il atteigne l'âge où il pouvait partir. Et il a commencé à partir en mission. Et surtout, il y avait un feu qui brûlait dans son cœur, c'était l'Afrique. Il a essentiellement fait son ministère en Afrique. Toutes les missions qu'il faisait, c'était en Afrique, la plupart du temps. Et donc, il a commencé à faire des grands rassemblements, mais c'était, il y avait 800 personnes, c'était énorme déjà au début, en 1972. Et six ans plus tard, en 1978, il y avait 10 000 personnes qui se rassemblaient. Donc, c'était des tentes gigantesques. Et en 1984, il a fait construire la tente la plus grande du monde. C'est rentré dans le Guinness des records. C'est une tente qui pouvait contenir 32 000 personnes. Vous imaginez la tente. C'est la tente des records. 32 000 personnes qui étaient sous la tente. Et il annonçait l'évangile, et pareil, il y avait des guérisons, des délivrances. Et les choses ont continué tellement qu'on ne pouvait plus mettre les gens sous une tente. Il y avait 500 000 personnes dans les années 90, et 1 600 000 dans les années 2000. 1 600 000 personnes dans une réunion, je crois. Ah, pour nous, ça paraît énorme parce que la ville de Toulouse, c'est 500 000 personnes. Voyez. Imaginez toute la ville de Toulouse rassemblée, c'est déjà 500 000. Mais là, 1 600 000, ça fait trois fois la ville. Si bien qu'ils étaient obligés d'aller sur des grands terrains, il y avait plus de tentes, il n'y avait plus toutes ces choses, mais c'était des espaces libres. Et dans une seule soirée, lorsqu'il annonce l'évangile, il y avait plus d'un million de décisions pour Christ. Vous voyez, quand Jésus dit... Ils feront les mêmes choses que je fais, mais ils en feront même des plus grandes. Des plus grandes. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint a été donné pour multiplier ce que Jésus a fait. Et les choses qu'a réalisées cet homme, ce n'est pas possible humainement. On voit bien que c'est surnaturel. On voit bien qu'à un moment donné, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle et qui permet les miracles et qui permet les transformations. Alors, dès le début, l'Église s'est attendue à la guérison. Vous avez cet exemple... Donc Pierre et Jean qui allaient à la prière, c'était l'après-midi, ils allaient au temple, ils allaient prier, il y avait un impotent, et il lui dit « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et par la foi, le prenant par la main, les chevilles de cet homme se sont raffermies, cet homme s'est levé. Donc, voyez, les premiers croyants s'attendaient à vivre les guérisons comme Jésus les faisait. Et puis, les gens sont venus vers eux, donc Pierre et Jean, en disant « Mais... » Ils croyaient que c'était des guérisseurs, mais ils disent non, ne croyez pas que c'est par notre propre puissance ou notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Acte 3, 16, c'est par la foi en son nom, en Jésus. Voilà comment il marchait. C'est par la foi en Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous. C'est pourquoi quand vous approchez pour prier, comme tout à l'heure, si vous avez besoin, venez avec foi, approchez-vous avec foi du Seigneur. Approchez-vous en croyant qu'il peut tout faire. C'est tellement important de croire en Jésus, de lui faire confiance. Ils avaient conscience, eux, de n'être que des instruments, mais ils savaient qu'avec la foi, tout devient possible. Et c'est pareil pour nous, frères et sœurs. Ce qu'ils ont vécu, eh bien, nous pouvons le vivre. Parce que certains pensent, oui, mais ça, c'était vrai au temps de Jésus, c'était vrai, oui, au temps des apôtres, d'accord, mais aujourd'hui, vous voyez, comme si ce n'était plus l'Église aujourd'hui. Est-ce que nous sommes toujours l'Église ? C'est toujours l'Église. Est-ce que Jésus est toujours le même Jésus ? C'est toujours le même Jésus. Comme si Jésus avait un petit peu changé, l'Église n'était plus la même. Ils pensent que c'était, oui, c'était pour les débuts, mais je crois qu'aujourd'hui encore, nous pouvons nous attendre aux mêmes guérisons, aux mêmes délivrances, et même plus encore. C'est Jésus qui le dit lui-même. Vous voyez, l'expérience qu'a vécu Rainer Bunke dans les années 2000, c'était vraiment plus encore. C'était plus encore que ce qu'on aurait même imaginé, pensé. C'était énorme. Donc Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a voulu faire, bien, il veut continuer à le faire. Comme dit la parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Je termine avec la diversité des moyens de guérison que Dieu nous a donnés, puisque maintenant nous sommes dans l'Église. Jésus est au ciel, mais il a envoyé son Esprit. Alors, il nous a donné la manière de procéder, et il a parlé de l'imposition des mains dans Luc chapitre 4, verset 40. Voilà comment Jésus procédait. Après le coucher du soleil, on amenait ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, et ils venaient vers Jésus. Il imposa les mains à chacun d'eux. Il imposa les mains. Ça veut dire quoi, imposer les mains? Ça veut dire mettre la main sur la personne. Non pas que la main est un fluide particulier, mais c'est dans la foi. Et il les guérit. Il recommande aux disciples de faire la même chose dans Marc 16, 16. Voici les signes qui accompagnera ceux qui auront cru, verset 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc imposer les mains, c'est le faire par obéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous imposons les mains, nous plaçons les mains sur la personne, dans la foi, surtout dans la foi. Parce que si vous imposez les mains sans croire, vous voyez, ça n'aboutit pas, il faut croire. Donc, d'ailleurs, c'est dit comme ça, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez que la foi, elle accompagne tous les signes. Que ça soit ici la guérison, mais il y a d'autres signes. Ils chasseront les démons, etc. Il y a plusieurs signes qui sont balayés. Ils buveront des breuvages mortels, cela ne les atteindra pas. Mais c'est pour ceux qui auront cru. Donc si vous enlevez la foi, en fait, bah, vous enlevez tous les signes qui accompagnent la foi de ceux qui auront cru. Donc la foi va vraiment accompagner tous ces signes. L'imposition des mains, je dis tout de suite, elle n'a rien à voir avec le magnétisme ou, vous savez, ce qui enlève le feu, ou parce que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui imposent les mains aussi, en dehors du christianisme. Il faut savoir que le diable, il imite les choses de Dieu. Donc, il y a des gens qui imposent les mains, mais faites attention à qui vous impose les mains, en réalité. Parce que, derrière l'imposition des mains, dans tout ce qui est en dehors du christianisme et de la foi véritable, la foi chrétienne, eh bien, il y a des communications de puissance mauvaise. Et donc, il faut être extrêmement vigilant si on vous propose de vous imposer les mains. Si, par exemple, vous allez voir un médecin qui vous conseille d'aller voir telle personne, il va vous imposer les mains, mais vous ne connaissez pas cette personne. Eh bien, soyez vigilant, parce que si cette personne n'est pas dans le Seigneur, c'est que l'imposition des mains qu'elle va vous faire, elle est de l'adversaire. Donc, il risque de vous contaminer de mauvaises choses, des mauvaises ondes, des malédictions. Peut-être que lui le fait en croyant bien faire, mais très certainement qu'il est utilisé par l'adversaire. Et donc, attention, ne vous laissez pas imposer les mains comme cela. Soyez d'accord pour qu'on vous impose les mains quand ce sont des gens qui sont sérieux, qui sont dans la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui vivent l'Évangile, mais pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est l'imposition des mains. Donc, ça existe à la fois dans la vraie foi chrétienne, mais ça existe aussi dans le monde. Attention à bien faire la différence. Et puis, l'onction d'huile. Je parle de l'onction d'huile parce qu'on m'a encore posé la question, qu'est-ce que c'est l'onction d'huile? Et les gens, souvent, le demandent. Alors, l'huile était utilisée pour soigner les malades dans l'Ancien Testament, déjà, par exemple, dans Ésaïe chapitre 1, verset 6. « De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures et contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies, par l'huile. » L'huile était déjà utilisée de manière thérapeutique pour soigner, pour calmer la douleur. Et quand vous avez la parabole de cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui va se faire frapper par des brigands, dans Luc 10, donc l'homme s'approche de lui, c'est le Samaritain, il bande ses plaies, il y verse de l'huile et du vin, c'était donc des manières de le soigner. L'huile avait cette propriété. Et bien sûr, ça c'est l'aspect physique, mais surtout, il y a un aspect spirituel maintenant quand on fait l'onction d'huile, c'est que l'huile, elle symbolise, elle représente le Saint-Esprit. Et dans Marc chapitre 6, verset 13, on voit que les disciples donc oignaient d'huile les malades, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades. Et cette onction d'huile, en fait, ce n'était pas l'huile qui guérissait les malades, mais c'était la prière de la foi. Mais on associait l'huile en symbole de l'action du Saint-Esprit. On n'a pas d'exemple, par exemple, où Jésus pratique l'onction d'huile lui-même, mais très certainement qu'il l'a fait, puisque les disciples l'ont fait, il a demandé aux disciples de le faire. Par contre, les disciples l'ont pratiqué. Et il n'y a que deux versets sur l'onction d'huile dans le Nouveau Testament, c'est très simple. Il y a ce premier verset, c'est dans Marc 6, verset 13, où les disciples oignaient d'huile beaucoup de malades. Et le deuxième verset, c'est dans Jacques, chapitre 5, verset 14, où là, c'est dans l'Église. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Notez tout de suite qu'après l'onction d'huile, ils oignent d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi. Donc la foi, vous voyez, c'est vraiment fondamental. On ne peut pas faire l'onction d'huile sans la foi. L'onction d'huile était pratiquée par les anciens. Qu'est-ce qui se passe? Un chrétien pouvait demander l'onction d'huile, donc il était malade. Il demande à ce qu'on lui fasse l'onction d'huile, donc il venait avec de l'huile, il mettait l'huile sur son front, et il faisait la prière de la foi. Donc ce n'est pas l'huile qui guérissait directement, mais c'est la prière de la foi dans le nom de Jésus, l'huile étant un symbole de l'action du Saint-Esprit, et l'accent est mis sur la prière de la foi. Bien sûr, il fallait confesser des péchés, parce qu'un péché, c'est un obstacle à la guérison, donc il fallait aussi confesser les péchés, et cela a été fait, et cela débloquait les situations. Donc ça, c'était l'onction d'huile. On voit bien que après l'imposition des mains, donc on peut utiliser l'onction d'huile. Et puis, il y a aussi la parole d'autorité. La parole d'autorité, c'est que Jésus, souvent, il guérissait par sa parole. Mais déjà dans le psaume 107, verset 20, on voit que la parole agit. Il envoya sa parole, c'est Dieu qui parle, il envoya sa parole et il les guérit. Donc déjà, c'est annoncé que la parole va guérir, la parole de Dieu. Et on sait que Jésus, c'est la parole. À un moment donné, un centenier romain vient pour son serviteur qui est malade. Il dit au Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Qu'est-ce qu'a compris cet homme? Il a compris la puissance de la parole de Jésus. « Dis seulement un mot, une parole de Jésus, et mon serviteur sera guéri. » Vous voyez, il fait le lien entre la parole et la guérison. Ça, c'est très important de relier la parole et la guérison. Souvent, Jésus menace la maladie. Il est dit qu'il menace à la fièvre, par exemple. Il s'adresse à la maladie. Donc la parole, les dons de guérison. On a dans 1 Corinthiens 12 une liste de dons spirituels, le don des guérisons. Donc certains sont utilisés particulièrement pour la guérison parce qu'ils ont ce don spirituel. Mais regardez le Proverbe 12:18. Même avec des paroles inspirées, vous pouvez aider quelqu'un qui est malade. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Si vous avez des paroles inspirées, des paroles qui viennent de Dieu, vous apportez déjà la guérison autour de vous, la guérison des bénédictions, des grâces, et c'est une bonne chose. Il y a un homme qui s'appelait Derek Prince, qui était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, assistant d'un médecin en Afrique du Nord, et il y avait une épidémie de dysenterie dans le camp. Alors la première question du médecin à chaque soldat, c'était « Comment vous sentez-vous » Et le soldat répondait. Et puis ensuite, il lui dit « Mais montrez-moi votre langue. » Et en fonction de ce que le médecin voyait sur la langue, en fait, il donnait le traitement. Et le Seigneur peut très bien nous dire « Mais montrez-moi votre langue. » Parce qu'en fonction de nos paroles, si vous voulez, il peut y avoir des situations dans notre vie qui peuvent nous plonger dans toutes sortes de difficultés ou même de maladies, à cause de nos paroles légères. Donc déjà, si nous apprenons à bien parler, comme la parole de Dieu, ce sera déjà une très bonne chose. Je termine avec une dernière pensée, c'est que se passe-t-il, que faire quand Jésus ne guérit pas aussitôt, quand la guérison tarde? On a des exemples où il faut persévérer, on n'a pas forcément la guérison tout de suite, il faut prier, quelquefois les jours, les mois passent. Eh bien, il faut continuer à prier dans la foi, et j'ai pensé à Shadrach, Meshach et Abednego. On a forcé ces trois hommes à adorer la statue de 30 mètres de haut, la statue du roi. Daniel 3,17. Et ils refusent et ils répondent au roi, mais notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il ne délivrera de ta main. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Vous voyez, ils ont une parole de sagesse. Ils disent, notre Dieu, il peut le faire. Il peut le faire. Ils ne savent pas s'il va le faire. Ils ne savent pas exactement ce que Dieu va faire, mais ils savent qu'il peut le faire, ça c'est sûr. Ils ont cette foi pour croire que Dieu peut. Mais il dit sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il dit, nous n'adorerons pas ta statue. Donc ils étaient résolus, ils étaient persévérants, et ils n'ont pas lâché sur cette pensée-là. Il nous faut, à travers la maladie, lorsqu'on n'est pas guéri comme cela, chercher qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu nous enseigne d'une manière, Dieu nous enseigne d'une autre. Et nous devons apprendre de tous les éléments qui nous arrivent, y compris la maladie, qui peut nous permettre de progresser dans bien des domaines, meilleure compréhension des autres. Elle peut nous permettre de nous humilier. Psaume 119, verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Peut nous humilier parce que nous sommes orgueilleux, la maladie nous humilie. J'aime beaucoup ce témoignage de cet homme qui s'appelle Nick Wojcik. Il est né sans bras et sans jambes. Je ne sais pas si vous connaissez son témoignage, il est extraordinaire. Il est né sans bras et sans jambes dans un foyer chrétien. Et à l'âge de 8 ans, il voulait se suicider. Et finalement, il n'a pas réussi à se suicider. Et merci Seigneur, il continue à vivre. Et il s'est converti. Et il s'est converti, il a donné son cœur au Seigneur, mais il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, de ma vie? Parce que vous partez dans la vie sans bras, sans jambes, c'est certain que ça va être compliqué. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour le Seigneur? Il dit, mais moi, je ne pourrais jamais rien faire. Eh bien, le Seigneur l'a appelé à prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Cet homme, il prêche dans le monde entier aujourd'hui, et il apporte des encouragements. Et j'aime bien le petit encouragement qu'il donne, parce qu'il n'a ni bras ni jambes, mais il dit que dans son placard à la maison, il a une paire de chaussures. Parce qu'il me dit, si Dieu me donne des jambes, comme ça, j'ai déjà les chaussures. C'est vraiment un type de foi quand même assez exceptionnel. Il a la foi, il s'attend à Dieu, il ne sait pas s'il va le faire, mais en tout cas, il est prêt. Si Dieu le fait, il est prêt déjà avec ses chaussures. J'ai trouvé ça bien, parce que, voilà, Dieu est tout-puissant. Dieu peut faire repousser aussi des membres qui n'existent pas. On va prier quelques instants. On a vu vraiment la manière de faire de Jésus. Jésus a pratiqué de nombreuses guérisons. Frères et sœurs, nous croyons que Jésus est toujours le même. Ce qu'il a fait pour ceux qui souffrent, eh bien, il veut le faire aujourd'hui. Attendez-vous au Seigneur, si c'est votre cas. On a prié tout à l'heure. Attendez-vous dans la foi. Attendez-vous à son action bénie. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour votre enfant, c'est peut-être pour votre parent, quelqu'un qui est malade. Mais tout simplement, portez-le au Seigneur dans la foi. Et puis, prions les uns pour les autres. On a vu le ministère de l'Église, ces dons de guérison qui sont donnés. Puisque Dieu a donné à l'un une parole de sagesse, à l'autre un don de guérison, à l'autre une parole de connaissance, tout cela c'est l'Église. Et nous pouvons prier avec foi les uns pour les autres en nous attendant à l'accomplissement des promesses de Dieu. Merci Seigneur encore pour ta parole qui nous enseigne que tu guéris encore aujourd'hui, que tu es réellement ressuscité pour apporter la vie éternelle, pour nous rapprocher de toi, pour nous montrer que tu es vainqueur sur toute l'œuvre de l'ennemi, sur le diable et ses démons, sur les oppressions, sur les malédictions. C'est pourquoi nous mettons notre vie entre tes mains en croyant que tu nous garderas et tu nous protégeras. Oui, Seigneur, bénis chacun. Tu vois ceux qui sont peut-être venus malades, qui s'attendent à toi, ceux qui sont oppressés, ceux qui cherchent encore le salut, ceux qui s'attendent à toi pour une guérison, pour une délivrance. Eh bien, Seigneur, nous croyons que tu es la vraie réponse à tous ces besoins. Et dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.